Chapitre 27e. Décidée à consulter un avocat, Sophie n'avait plus qu'à trouver celui auquel elle se confierait. Et après avoir longuement cherché, elle prit le parti d'aller à Caen. Pourquoi Caen plutôt qu'une autre ville? Tout simplement parce que Caen était loin de Condé. Et aussi parce que, autant où Aurélien l'aimait, celui-ci avait souvent exprimé le regret de ne pas faire son droit à Caen, au lieu d'avoir été envoyé à l'université de Louvain. Sans doute c'était là pour elle un grand voyage, mais elle avait des économies, et dans une pareille circonstance, elle ne devait pas hésiter à les dépenser. Elle se leva donc de bonne heure, de manière à pouvoir prendre la première voiture de la correspondance du chemin de fer qui partait de la place Saint-Étienne à 6 heures du matin. Comme elle arrivait sur cette place, tenant Richard Béranger serré sur sa poitrine, et bien cachée sous le manteau dont elle s'était enveloppée, elle aperçut Madame Prêt-à-Boire et Aurélien qui descendaient la rue de l'Évêché. Allait-il prendre aussi la correspondance de chemin de fer? À la pensée de voyager avec eux, elle fut effrayée. Mais presque aussitôt, les ayant regardés plus attentivement, elle se rassura. Aurélien portait sous son bras un livre relié en noir, qu'elle n'avait pas vu tout d'abord. Ils allaient entendre la messe de 6 heures et sans doute demander à Dieu de les protéger. Était-il possible que leurs prières fussent exaucées? À 11 heures, elle était à Caen. En sortant de la gare, elle se fit indiquer le chemin du palais de justice, car ne connaissant personne dans la ville, elle avait résolu d'aller demander au concierge du palais l'adresse du meilleur avocat, c'est-à-dire de celui qui jouissait de la meilleure réputation. N'était-ce pas le plus simple et le plus sûr? En entendant cette singulière demande, le concierge, qui était un bon normand au courant des choses aussi bien que des hommes de la chicane, se mit à questionner cette ignorante jeune femme. Était-ce pour une affaire civile, pour une affaire criminelle ou correctionnelle qu'elle voulait un avocat? Je ne sais pas, dit Sophie, c'est pour un conseil que je voudrais demander. À quel genre d'affaire s'applique ce conseil dont vous avez besoin? Est-ce une contestation entre parents ou entre voisins? Est-ce en matière personnelle ou mobilière? S'agit-il d'une contravention, d'un délit ou d'un crime? Vous comprenez que chacun a sa spécialité, il faut distinguer. Oui, elle comprenait cela. Mais cependant, elle ne pouvait raconter son affaire à ce brave homme, si ferré sur les délits et les crimes. « Ce que je voudrais, dit-elle, ce serait un bon avocat connaissant bien la loi et qui m'écouterait avec patience. » Voyant qu'il ne tirerait rien d'elle, il se décida à lui donner le renseignement qu'elle demandait. « Monsieur Le Hoguet, tout près d'ici, derrière le palais de justice, rue Saint-Martin. Allez-y, il vous recevra tout de suite, car il ne plaide pas. C'est ce que nous appelons un avocat consultant. Il vous donnera un bon conseil, le meilleur qu'on puisse donner. » Elle se rendit rue Saint-Martin, mais elle ne fut pas reçue tout de suite comme le concierge le lui avait fait espérer. Il y avait déjà une personne dans le cabinet, où une vieille servante la fit entrer, et elle dut attendre son tour. Il y avait quelques minutes qu'elle était assise, s'efforçant de faire taire Richard Béranger, qui poussait des petits cris et des éclats de rire, quand une troisième personne arriva. Une conversation s'engagea aussitôt entre ce nouvel arrivant et celui qui était déjà arrivé avant elle. Tout d'abord, elle ne prêta pas attention à cet entretien. Mais bientôt, elle n'en perdit pas un mot. On parlait de M. Le Hoguet et rien en ce moment ne pouvait être plus intéressant pour elle. Ainsi, vous venez exprès de Lisieux pour le consulter? Comme vous-même venez de Falaise. Mon avocat n'entend rien à mon affaire. L'avis du père Le Hoguet va lui donner la ligne à suivre. Moi, ce que je veux, c'est une consultation longuement délibérée qui sera soumise au tribunal et qui, j'en suis sûr, enlèvera son jugement. Si on venait ainsi de loin consulter M. Le Hoguet, c'est que ce n'était pas le premier venu. Si ses avis éclairaient les avocats et décidaient les juges, cela prouvait qu'on pouvait avoir confiance en lui, et pour Sophie, c'était là l'essentiel. Elle eut longtemps à attendre, mais enfin son tour arriva, et elle entra dans le cabinet de l'avocat où elle se trouva en présence d'un vieux bonhomme à mine bourrue, coiffé d'une calotte de cuir enveloppée dans une robe de chambre décolorée par un très long usage. Elle était déjà intimidée, tremblante, et le premier mot qu'il lui adressa n'était pas fait pour la rassurer. « Pourquoi avez-vous amené cet enfant ?»« Parce que je n'ai personne pour le garder, et comme je viens de loin pour consulter, je ne pouvais pas pendant toute la journée le laisser seul. »« Ah, vous venez de loin. Qu'est-ce que vous voulez? Contez-moi votre affaire. Elle est longue. »« Alors comptez-la longuement. » Je suis là pour vous écouter, mais tâchez que votre enfant ne nous interrompe pas. » Elle la conta son affaire, sans rien atténuer, sans rien exagérer, et l'avocat l'écouta sans l'interrompre une seule fois, se grattant seulement la tête de temps en temps avec sa calotte. « Eh bien, » dit-il quand elle se tut, « qu'est-ce que vous voulez ? Savoir s'il peut reconnaître mon enfant pour son fils ? Oui. » Elle eut un frémissement qui l'agita de la tête aux pieds. « Alors il peut réaliser ses menaces ? Oui, pour la reconnaissance, mais quant à vous enlever l'enfant, il faut distinguer. » « Me permettez-vous de vous dire, monsieur, que je ne comprends pas ?»« Pardine, mais avant de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, une question, je vous prie. De ce que vous m'avez dit, il résulte, n'est-ce pas, que le père de cet enfant est riche et qu'il occupe une haute position ?»« Oui, monsieur, sa fortune est grande et sa position fait de lui un personnage. »« Alors pourquoi avez-vous peur qu'il reconnaisse votre enfant pour son fils et qu'il veuille se charger de lui ?» Par cette reconnaissance, il ferait participer, dans une certaine mesure, cet enfant aux avantages de sa fortune et de sa position. Pourquoi refusez-vous cela pour votre fils ? Parce que je veux garder mon enfant, qui est ma vie et mon bonheur. Et puis aussi, parce que la fortune n'est pas tout à mes yeux, pas plus que la position. J'aime mieux que mon enfant soit élevé honnêtement dans la pauvreté, que d'être élevé dans la richesse par son père, de façon à ressembler peut-être un jour à ce père. Bon, je vois de quoi il s'agit. « Eh bien, ma pauvre fille, je dois vous dire que ce que vous craignez se réalisera très probablement un jour. D'abord, pour la reconnaissance, vous ne pouvez pas l'empêcher. Mettez-vous bien cela dans la tête. Maintenant, quant à vous enlever votre enfant en ce moment, cela est impossible. Je le garde donc. Vous le gardez pour le moment, mais je ne peux pas vous dire que vous le garderez toujours. Dans cette question de la garde des enfants, les tribunaux se déterminent par l'intérêt de l'enfant. Et présentement, l'intérêt de l'enfant est qu'il reste confié à sa mère des soins de laquelle il a besoin. Mais il arrivera un moment où, devenu plus grand, il aura besoin d'éducation. Et alors les tribunaux pourront décider qu'il sera remis au père, lequel est en situation de faire pour lui ce qui est impossible à la mère. On peut donc me le prendre, sans aucun doute. Mais c'est un crime d'enlever un enfant à sa mère. Ne philosophons pas, et résumons-nous plutôt. Vous ne pouvez pas empêcher la reconnaissance, on ne peut pas vous enlever votre enfant demain, mais dans un certain délai, on peut ordonner qu'il sera remis à son père. Voilà la loi, et puisque c'est sur la loi que vous me consultez, voilà ma réponse. Alors il peut tout contre moi, lui qui a abandonné la femme qu'il aimait, lui qui a abandonné son enfant, et moi je ne suis plus rien contre lui. Il faut que je lui livre mon enfant, qu'il formera son image. Ah, monsieur, je vous en supplie, donnez-nous, trouvez-nous un moyen de nous défendre et d'échapper. Lui, il tendit Richard Béranger à l'avocat, à cette fortune qui le perdra, moi, au désespoir. Ma pauvre enfant, la loi est la loi, il faut la subir. Vous me paraissez être une honnête fille. Vous ne voudriez donc pas vous servir des moyens que de malhonnêtes gens trouveraient pour violer la loi. Quel moyen ? Voudriez-vous faire épouser par un homme qui, sans être le père de cet enfant, le légitimerait par mariage ? Oh, jamais ! Eh bien alors, il faut courber la tête. La reconnaissance, vous ne pouvez l'empêcher. Pour la garde de l'enfant, vous pouvez plaider. Mais à l'avance, il y a de grandes probabilités que vous ne réussirez pas. D'un côté, le tribunal verra une pauvre femme qui n'est rien et qui n'a rien. De l'autre, il trouvera un homme qui a la puissance, la position, l'honorabilité, la fortune, il est à croire qu'il décidera que l'intérêt de l'enfant exige que votre fils soit confié à cet homme. » Sophie se leva, et durant quelques secondes, elle resta embarrassée sans pouvoir trouver une parole. Enfin, elle se décida. « Je voudrais vous demander combien je vous dois, monsieur, et je n'ose. Combien gagnez-vous par jour, mon enfant ? » dit-il en la regardant avec douceur. « 2 francs, quelquefois 2 francs 50. Eh bien, donnez-moi le prix dont on vous paye une journée de travail. Nous sommes quittes. » Elle revint à Condé, accablée. Elle n'avait plus à espérer, à se bercer d'illusions et à se dire « c'est impossible, la loi avait parlé ». On pouvait lui prendre son enfant, sinon demain, en tout cas dans un certain délai. Mais pour son cœur de mère, qu'importait ce délai ? Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, elle aimerait moins son fils que maintenant ? Que faire ? Et de nouveau, elle se retrouva devant cette terrible question, non pas durant une nuit, mais durant des nuits et des journées entières. Pour sauver Mademoiselle de la Roche-Audon, devait-elle sacrifier son fils ? Telle était son angoisse qu'elle ne pouvait pas examiner ses questions jusqu'au bout. Un anéantissement la paralysait et elle s'efforçait de chasser ses pensées. Plus tard, elle se déciderait. Les journées s'ajoutaient aux journées sans qu'elle osât prendre cette décision. Son fils d'un côté, de l'autre, Mademoiselle de La Rochaudon. Et alors il y a des moments où elle se disait que cet homme, après l'avoir rendue méprisable aux yeux de tous, la rendait maintenant méprisable à ses propres yeux, car c'était une lâcheté d'attendre ainsi. Mais malgré tout, elle attendait encore, elle attendait toujours. Chapitre 28e. Après avoir obtenu le titre de comte du pape pour Aurélien, après avoir arraché à la vicomtesse de La Rochaudon son consentement au mariage de Bérengère avec le comte Prétavoine, camérier de cap et d'épée de sa sainteté, après avoir écarté le capitaine Gardilane grâce à l'intervention toute-puissante de l'abbé Subilo, après avoir réduit Sophie à l'impuissance par la menace de la reconnaissance de Richard Béranger, les affaires de Madame Prétavoine, ou plus justement son unique affaire, c'est-à-dire le mariage d'Aurélien et de Bérengère, se trouvaient dans une excellente situation. Cependant, tout n'était pas dit, tout n'était pas fini. Il restait maintenant à obtenir le consentement du vieux comte. Et chose autrement délicate, autrement difficile, il restait à obtenir le consentement de Bérengère. Par son habileté et sa persévérance, elle s'était emparée des abords de la place dont elle faisait le siège. Par sa vigilance et son énergie, elle avait repoussé tout secours venant de l'extérieur et réduit les assiégés à leur seule ressource. Mais maintenant, elle devait emporter d'assaut la place même, et c'était une dernière bataille à livrer, décisive celle-là. Aussi, avant de risquer cette bataille, avait-elle voulu se créer des intelligences dans la place et isoler si bien Bérengère qu'elle resta seule pour se défendre. L'apoplexie du comte était venue juste à point pour l'aider dans cette tâche, car bien que la guérison se fût produite assez rapidement, elle n'avait pas été complète. Rétabli et remis sur pied, le vieux comte n'avait pas retrouvé le libre usage de toutes ses facultés, sa fermeté d'intelligence, sa décision dans le vouloir, son égalité d'humeur. En quelques jours, il avait vieilli de plusieurs années. Et si ses forces physiques paraissaient être revenues ce qu'elles étaient avant l'attaque, par contre, ses forces morales avaient visiblement baissé. Sa sensibilité surtout avait pris un caractère maladif. Il s'attendrissait jusqu'aux larmes pour la plus légère émotion, et lui, qui naguère était la douceur et la patience même, il se fâchait et s'emportait pour tout ce qui le contrariait ou le gênait, contre les gens aussi bien que contre les choses. Un rien l'intimidait, et devant une résolution à prendre, devant un ordre à donner, il restait hésitant, se défiant de lui-même et n'osant se charger d'une responsabilité. Assidue au dîner du jeudi, Madame Prétavoine avait constaté ce déclin avec satisfaction et espérance. Car plus le comte restait faible, plus facilement lui imposerait Aurélien pour gendre. Cependant, d'autre part, il ne fallait pas que ce déclin allât trop vite, et que le comte en arrivât à mourir, ou même simplement n'avoir plus ni volonté ni intelligence. Car dans l'un ou l'autre de ces cas, Bérengère retournerait immédiatement au capitaine de Gardilane, et de quelque façon qu'on manœuvra, on ne parviendrait jamais à lui faire accepter Aurélien. C'était de la main seule de son grand-père qu'elle le prendrait, par tendresse, par faiblesse, pour lui obéir et surtout pour le consoler, pour le rassurer. Or, pour que cela se réalisât, il fallait que le comte fût en vie, et assez solide encore pour qu'elle pût croire que par ce mariage, elle assurait à ses dernières années la paix et la sécurité. Il y avait là une question d'une extrême délicatesse, et qui exigeait d'être traitée avec une grande prudence en même temps qu'avec une ferme résolution. Il fallait profiter du moment opportun et saisir l'occasion au vol. Agir trop tôt, avant que la sénilité de M. de La Rochaudon fût arrivée à point, c'était s'exposer à un nouvel échec. Agir trop tard, quand le comte n'aurait plus que quelques jours, quelques semaines à vivre, c'était perdre toute pression paternelle sur Bérengère. Il était donc aussi important de ne pas devancer l'heure que de ne pas la laisser passer. En l'attendant, cette heure propice, Madame Prétavoine continuait sans repos ses savantes préparations et ses circonvallations, et cela, soit par elle-même, soit par ceux qui n'étaient que ses instruments, plus ou moins conscients. Heureux d'être rentré en grâce auprès de son confesseur, le comte se rendait scrupuleusement tous les samedis au confessionnal de l'abbé Subilo, et tous les dimanches il communiait comme autrefois. Mais l'abbé Subilo ne s'en tenait pas à ses confessions du samedi. Chaque jour, régulièrement, il venait à la Rouvraie, et il avait alors de longs tête-à-tête, des entretiens particuliers avec le comte, toute porte fermée, avec défense expresse à personne de troubler ces entretiens, sous quelque prétexte que ce fût. Que se passait-il? Que se disait-il dans ce tête-à-tête? Bérengère l'ignorait. Mais bien évidemment, ce n'était pas seulement du salut de son grand-père ou de matière religieuse qu'il était question. Son grand-père était trop bon chrétien pour avoir besoin d'être aussi longuement exhorté. Et quant aux matières religieuses, il semblait à Bérengère qu'il n'avait rien à apprendre de l'abbé Subillot. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle voyait, c'était que de ces entretiens, son grand-père sortait presque toujours préoccupé, assombri et même inquiété, plus impressionnable, plus irritable ou plus sensible. Combien souvent ne la prenait-il pas tout à coup dans ses bras pour l'embrasser? « ma pauvre enfant !» disait-il. Et les larmes coulaient sur ses joues. Puis il rentrait dans ce mutisme, n'osant évidemment pas lui dire ce qui l'oppressait et le tourmentait ainsi. Le docteur Hébette lui aussi faisait une visite quotidienne au comte, non pas à heure fixe, mais tantôt le matin, tantôt le soir. Il lui tâtait le pouls en souriant et lui racontait les nouvelles de la ville. C'était seulement quand le comte avait mal dormi, ou quand il avait un peu de fièvre, qu'il remplissait sérieusement son rôle de médecin. Alors Bérengère se retirait, et plus libre, le docteur Hébette grondait doucement son malade. « Vous ne faites pas ce que je vous recommande. Vous ne vous tranquillisez pas. Je ne me permets pas de vous interroger sur vos affaires, ni même de les deviner. Mais enfin, il est bien certain qu'il y en a une qui vous préoccupe vivement et par là vous donne la fièvre. Terminez-la au plus tôt, monsieur le comte. Prenez une résolution, si pénible qu'elle soit. Une fois que vous n'aurez plus de soucis, je vous garantis une santé parfaite. Mais je vous en supplie, décidez-vous au plus vite. Rien n'est plus mauvais, n'est plus grave pour vous que cette fièvre que vous nous donnez. » Il n'insistait pas sur cette affaire. Il ne parlait pas de mariage, il ne prononçait pas de nom. Mais cependant, chaque mot qu'il disait portait coup. Ce nom, un autre le prononça. Cette affaire du mariage, un autre la traita et l'appuya franchement, ce fut le notaire Griolet. Le premier des deux billets souscrits par M. de La Rochaudeau en profit de Mme Prit'Avoine allait bientôt échoir, et par suite de fâcheuses circonstances résultant de la faillite Ventillard, le comte n'avait pas pu réunir les fonds nécessaires au paiement de ce billet. Sans doute il pouvait en demander le renouvellement à sa créancière, mais cette demande lui coûtait, et il avait préféré s'adresser à Griolet pour que celui-ci lui trouvât les 100 000 francs qui formaient le montant de ses deux billets. Il s'était donc rendu chez le notaire, et comme Bérengère l'accompagnait, il l'avait laissé à la porte dans la voiture. Sachant de quoi il s'agissait, elle n'avait point insisté pour le suivre afin de lui épargner l'ennui de traiter cette affaire d'argent devant elle. En entendant parler d'un emprunt de 100 000 francs, Griolet avait poussé les hauts cris. Hypothécairement, cet emprunt n'était pas possible. Sur billet, il était bien difficile, et d'ailleurs, souscrire des billets à Madame Prit'Avoine ou à d'autres personnes, c'était toujours des billets, avec échéance fixe, protêt, etc. Puis pris d'un bel accès de franchise, Griolet s'était expliqué ouvertement. « Puisque je suis votre homme d'affaires, » avait-il dit, « je dois vous faire entendre le langage des affaires ou bien je ne remplis pas mon emploi. Sans aucun doute, votre fortune est belle, très belle, et cependant votre situation est mauvaise. À quoi cela tient-il? Pour une bonne part, pour la grande part, aux dettes dont vous vous êtes chargé, mais aussi, il faut le dire, à vous aussi, monsieur le comte, à votre bonté qu'on exploite. Si vous aviez eu plus de fermeté, les Ventillard vous auraient payé longtemps avant de se déclarer en faillite. Si vous ne vous étiez pas laissé attendrir, vos fermiers, vos marchands de bois ne vous devraient pas 300 000 francs. Ils sont à notre service depuis si longtemps. Voilà le mal précisément, ils sont à leur aise, tandis que vous, vous êtes gêné. Ils spéculent sur votre bonté, sachant bien que vous ne les poursuivrez pas. 650 000 francs dus par les Ventillard, 300 000 francs par vos fermiers et divers autres, cela fait 1 000 000. Combien perdrez-vous là-dessus? Ce sont d'honnêtes gens. Ils seraient honnêtes avec un créancier qu'ils craindraient. Avec vous, ils cherchent tous les moyens pour ne pas l'être. Voilà pourquoi je vous dis, monsieur le comte, qu'il faudrait pour diriger vos affaires une main ferme qui défendit et sauvegarda la fortune de mademoiselle de La Rochaudon. Aussi moi, votre notaire, chargé de vos intérêts, je n'hésite pas, en présence de ce que je vois et surtout de ce que je prévois, à vous donner le conseil d'accepter le comte Prit'Avoine pour gendre. À ces mots, le comte se redressa de toute sa hauteur. « Maître Griolet, c'est 100 000 francs que je vous demande, » dit-il. « Vous avez raison d'être blessé de ce que je viens de vous dire, monsieur le comte. Mais avant de vous adresser mes excuses, je dois vous expliquer comment j'étais amené à me permettre de vous donner ce conseil. Hier, je rencontre le docteur Hébette, qui revenait de la Rouvray. Et tout naturellement, je lui demande de vos nouvelles. Il me répond que vous iriez très bien si vous aviez la tranquillité de l'esprit, le repos moral, mais que vos tourments vous minent. C'est alors que m'est venue l'idée, moi qui connais la cause de ces tourments, de vous parler de ce mariage qui vous donnerait cette tranquillité, ce repos, et qui non seulement sauverait votre existence, mais encore qui sauverait votre fortune. J'ai cru accomplir le devoir d'un honnête conseil, et bien que je sentisse que vous pourriez vous blesser de cette intervention, je n'ai pas hésité à remplir ce devoir. Maintenant, ce n'est pas à moi de faire l'éloge du comte Prit-à-Avoine, je n'ai souci que de vous, monsieur le comte, de votre santé, de votre fortune. »